cours de philosophie première par le père Marie-Dominique Philippe, le 9 mars 2001 à Saint-Jodard.
Il y a deux petites questions. Est-ce que la substance, l'acuité, l'être en acte existe dans la réalité? On est parti de quoi au point de vue métaphysique? Qu'est-ce que j'ai dit en métaphysique? Que le jugement d'existence est toujours en acte. Or, le jugement d'existence, qu'est-ce qu'il dit? Ceci est. Est-ce que je regarde la réalité ou est-ce que je regarde mon intelligence? Je voudrais que vous découvriez vous-même ce que c'est que la métaphysique, ce que c'est que la philosophie. Le jugement d'existence est toujours en acte, comme en théologie, l'acte de foi est toujours en acte. Je ne peux pas faire un pas en théologie sans qu'il y ait l'acte de foi. Je ne peux pas faire un pas en philosophie sans le jugement d'existence. Ceci est. C'est la réalité que je regarde. Et je ne quitte pas la réalité en philosophie. Je ne quitte pas la réalité. J'analyse la réalité. Et c'est comme si vous disiez, à celui qui fait de la physique ou de la biologie, qu'il quitte la réalité. Mais non, il ne la quitte pas, il la regarde avec un instrument plus ou moins parfait. Mais il regarde la réalité, et la réalité est toujours là présente, mais à travers l'instrument. En philosophie, je n'ai pas d'instrument. C'est la chose très curieuse. Et j'ai mes sens, qui sont un instrument de l'intelligence. Plus que ça, ils sont plus qu'un instrument. Ils sont ma manière de vivre. Et dans le jugement d'existence, la sensibilité est aussi en acte. Alors, je ne quitte pas la réalité, l'être. J'analyse l'être. Et je saisis dans l'être sa première détermination, la substance. Je saisis dans l'être son intelligibilité, sa quidité. Je saisis dans l'être, l'être en acte. C'est dans la réalité. En vous, en moi, il y a la substance, l'âme. Mon âme est toujours présente quand j'étudie le vivant. J'étudie pas le cadavre, j'étudie le vivant. Il y a une exposition à Berlin des cadavres. Arrive là. C'est pas seulement à Berlin, c'était à Tokyo. C'est une exposition, une grande exposition qui fait le tour du monde et qui attire tout le monde. Une espèce d'anatomie devant tout le monde. On montre le corps humain, le cadavre. Un procédé particulier pour le garder dans sa fraîcheur de cadavre, si j'ose dire, artificiellement. Et on montre le cadavre coupé. Tout le monde regarde ça et paraît que ça a un succès monstre. Vous voyez, civilisation du mort. On en est là. Et ça attire une foule énorme. Tout le monde aime ça, de regarder l'anatomie qui était faite pour des savants et qui était faite pour dans L'anatomie a commencé d'être fait, il ne faut pas oublier ça. Hein. Parce que c'est vrai, ça a été d'abord entre chrétiens. Et on faisait toujours dans la salle d'anatomie, il y avait toujours le Christ. Pour se rappeler que le corps humain avait été déifié dans le Christ. Et maintenant, l'anatomie se montre à tout le monde. Sûrement que cette exposition, je ne sais pas ce que feront, ce qu'il y aura à Paris, mais elle fait le tour du monde. C'est assez affolant. Hein. Parce que le corps humain est quand même... On doit avoir le respect du corps humain. Et on l'a montré à tout le monde. Alors, voyez, un cadavre, l'âme n'est plus. Il y a un procédé artificiel pour le maintenir. Autrement, il serait corrompu. Donc, on a un art pour maintenir les bords. Et il y avait cette chose curieuse, à la fois, on brûle les cadavres, l'incinération, et ou bien on les garde, on les met comme objet d'exposition. Et paraît-il qu'avec cette exposition, quand on met ça comme une exposition artistique, l'art, le réalisme de l'art, la substance, votre âme, elle est en vous, elle est réelle, quand vous parlez de l'âme, et vous parlez de l'âme comme un principe. Alors, en tant que vous parlez de l'âme comme un principe de vie, c'est votre intelligence qui a saisi l'âme. L'âme en vous est principe de vie, mais elle est principe de vie en informant le corps. Donc, il y a une modalité, ce principe existe dans le corps, mais il peut exister dans mon intelligence qui le saisit. Vous voyez, il y a deux manières d'exister, une manière réelle, physique, vitale et d'une manière intentionnelle. C'est ça qu'il faut saisir. Il faut saisir que l'intelligence, quand elle connaît, transpose tout selon un mode intentionnel. Mais mon jugement d'existence ne s'arrête jamais à l'intentionnalité. Je dis, un principe, en tant qu'il est connu, existe intentionnellement. Un principe réel, un principe d'être, selon la cause formelle, la substance, existe dans la réalité. Le principe est dans la réalité. Toute la philosophie essaie d'étudier l'homme réel. Je ne suis plus en philosophie quand j'étudie le possible imaginaire. Je ne suis plus en philosophie, mais je suis en philosophie tant que j'étudie une réalité existante. Et la réalité existante est toujours là, le jugement d'existence est tout dans l'or. Le jugement d'existence est dans toute ma métaphysique. Et le jugement d'existence existe lorsque je découvre l'existence de Dieu. Alors j'ai un jugement d'existence selon une modalité ultime. Il est nécessaire de poser l'existence d'un être premier, qu'on appelle Dieu. Donc, comprenons bien, est-ce que la substance, l'acuité, l'être en acte, existe dans la réalité, existe dans l'homme, dans la réalité, c'est l'homme qui m'intéresse, ou bien est-ce que mon intelligence qui les pose pour comprendre, sans saisir la réalité ? le Nouvel An. Pour la réalité aura toujours quelque chose qui est au-delà de ce que je saisis de la réalité. La réalité a toujours une manière d'être que je ne puis pas épuiser. C'est la différence de mon regard et du regard de Dieu. Dieu, en me regardant, a une compréhension totale de mon être. Rien ne m'échappe. Mon être est totalement limpide pour Dieu. Parce qu'il vient de Dieu. Dieu crée, quand Dieu crée, il le crée avec sa sagesse. Et les réalités sont intelligibles. Et je les connais. Et cette intelligibilité, je parle de la cuidité de cette réalité. Mais il y a dans le réel quelque chose qui est plus que ce que je connais. C'est pour ça que le réel peut être mesure de ma connaissance. Il y a dans le réel quelque chose qui échappe. C'est ce qu'il y a de vrai dans le noumen de Kant. Il y a quelque chose, mais je saisis les principes. Je ne saisis pas, je n'ai pas une intuition exhaustive du réel. Quand je vous regarde, je ne dis pas que je vous saisis intégralement. Vous vous saisissez mieux que je vous saisis. Heureusement pour vous. Parce que vous avez toujours la possibilité de vous échapper. En disant, tu ne me connais pas à fond. Et c'est vrai. Bien qu'en vous aimant, je vais plus loin qu'une connaissance purement scientifique. Je connais mon ami mieux qu'un psychologue. Parce que je le connais intimement. Je le connais dans ses intentions. Et ses intentions, c'est ce qui est le plus réel. L'autre, c'est les manifestations. Mais son intention, c'est ce qui est le plus réel. Et donc, je connais mon ami de cette manière infiniment plus réelle. Alors vous voyez, il faut toujours maintenir ces deux manières d'exister, réellement, existentiellement, et puis en tant qu'ils sont connus. En tant que connus, vous possédez tout un monde d'intentionnalité. Et c'est pas le réel, c'est ce qui est connu. Alors, vous voyez tout de suite que si mon objet, c'est ce qui est connu par moi, je ne saisis jamais le réel tel qu'il existe. Et donc, le réel tel qu'il existe m'échappe. Parce que le jugement d'existence est plus lent. Mais dans le jugement d'existence, vous reconnaissez qu'il y a un être autre que vous, qui, au point de vue de l'intelligibilité de ce qu'il est, il y a quelque chose en lui que vous ne saisiez pas totalement. Vous n'avez pas une intuition globale de ce que vous, de ce qu'est la réalité autre que vous. C'est toujours la séduction du jugement de nous-mêmes. Du « je suis », je me saisis de l'intérieur quand je dis « je suis », tandis que vous, vous me saisissez de l'extérieur, il est là, je suis là au milieu de vous, il est là, mais vous ne saisissez pas mon être existentiel dans la profondeur dont Dieu me connaît. Alors, je dis ça, jugement d'existence, de sagesse de Dieu. Je n'ai pas encore affirmé l'existence de Dieu, donc je ne peux pas le dire. Mais je peux dire qu'il y a en toute réalité quelque chose qui m'échappe. C'est pour ça que le réel est mesure de mon intelligence. Si j'épuisais le réel, je n'aurais pas besoin du réel. Je connais cette réalité parfaitement. Oui, je me souviens, c'était un petit exemple. C'était le bon père Garrigou Lagrange. Bon. Il y avait les plans d'un couvent. Et puis, le couvent, après, existait. Alors, premier voyage, on lui montre les plans du couvent. Très bien, il regarde ça. Second voyage de Rome, le couvent existait. On lui dit, si vous voulez, on va aller voir le couvent. Il est construit maintenant. Alors, c'est pas la peine, j'ai vu le plan. Est-ce que c'est la même chose de voir le plan d'un couvent, même si ce plan est très détaillé, et puis de voir le couvent réalisé? Et quand vous êtes en face de quelqu'un qui vous dit « Oh, c'est pas la peine de le voir, j'ai vu le plan », vous avez envie de lui dire « Mais quoi ? Le réel n'est pas ce que vous connaissez. Le réel, il a quelque chose à vous dire. » Même si vous avez vu le plan, il y a un plan très détaillé. Il y a un abîme entre le plan et la réalité. Si vous considérez que c'est la même chose, attention, il y a quelque chose en vous qui ne marche plus tout à fait. À la place de vous arrêter à la réalité existante, vous vous arrêtez à ce que vous avez connu de la réalité. Ce que vous avez atteint de la réalité, le plan. Vous voyez, c'est très important de pouvoir bien saisir la différence entre les deux. Grâce à l'analyse métaphysique, je saisis les principes de l'être. Donc la réalité n'est plus quelque chose d'absolument inconnaissable. J'en connais les principes. Mais connaître les principes d'une réalité, sa substance, son être en acte, c'est très précieux. Mais la réalité elle-même, quand elle existe, ses principes sont présents en elle et il y a le pouce de cette réalité. Elle réside de telle manière, elle existe de telle manière, c'est son pose, le comment. Et ce comment réclame de moi un autre type de connaissance, une connaissance descriptive. J'ai vu cela, maintenant je peux le décrire. Vous voyez, le pose, c'est la manière d'être. C'est la même chose pour la connaissance de Dieu. Oui. Vous saisissez Dieu grâce aux principes métaphysiques que vous saisissez. Vous dites Dieu, c'est une substance. Dieu, un être pur, être en acte pur. Oui, mais c'est pas Dieu, ça. Dieu, c'est une réalité, c'est une personne. Alors vous essayez de saisir comment en Dieu tous ces principes se réalisent. En Dieu, la substance, elle est absolument simple. Omnino simplex. Sa manière d'être. Omnino simplex. Mais même quand je dis ça, je n'ai pas l'intuition de Dieu. Mais si je voyais Dieu, Gérard, quelle différence entre affirmer cette conclusion, Dieu est absolument simple, celui que je peux contempler ici-bas, mais je n'ai pas une contemplation immédiate, je n'ai pas l'intuition de Dieu. Quand je verrai Dieu, je verrai tel qu'il est. sa manière d'être et son être ne font qu'un. Il est tout à fait simple. Tandis qu'en moi, ma manière d'être et mes principes sont deux choses différentes. Ma manière d'être, c'est que je suis ici, maintenant, là, au milieu de vous. Ça, vous pouvez le décrire. Vous pouvez faire le croquis. Vous pouvez le décrire. Et dans cette manière d'être, il y a l'âme, substance, oui. Vous savez à peu près ce que c'est que la substance, mais vous ne l'avez jamais vue. Hein. Vous n'avez jamais vu une substance hein. Se balader. Hein. Ça serait comme quelque chose d'affolant. Vous n'avez jamais vu une âme. Vous avez vu une âme dans un corps. Hein, une âme dans un corps a cet immense avantage. Elle est au bout de mon petit doigt. Oui, elle touche un corps vivant. Si ce corps était cadavérique, hein, je fais pas la même chose. Hein. Je pourrais plus le toucher, moi. S'il y a un autre qui le toucherait. Et il verrait tout de suite, hein, non, il n'y a plus la vie. Alors on dit ça, il n'y a plus la vie. Cliniquement, peut-être que son âme est encore là, on ne sait pas. À quel moment l'âme quitte le corps. Vous savez, la mort clinique, la mort réelle. La mort réelle, c'est quand l'âme quitte le corps. Mais comme vous ne pouvez pas saisir l'âme directement, vous ne savez pas à quel moment elle quitte le corps. Est-ce qu'elle quitte le corps progressivement? Elle quitte le corps d'abord en faisant que on ne peut plus. Quand il est mort, quand quelqu'un est mort, il ne peut plus, il ne bouge plus son bras. Et peut-être que cette âme, elle est réfugiée. J'en sais pas, j'en sais rien. Métaphysiquement, on dira que l'information est instantanée. Mais comme on vit dans le devenir, on croit que l'âme quitte le corps en devenir. Est-ce que c'est juste? Est-ce que l'âme progressivement quitte le corps? Ou est-ce que l'âme quitte le corps brutalement? Instantanément. Vous réfléchissez là-dessus. Oui, c'est comme la création de l'âme dans la création de l'âme dans le corps, dans l'embryon. Est-ce que ça se fait progressivement ou instanti quand Dieu crée l'âme? Est-ce que Dieu crée l'âme immédiatement dès qu'il y a conception biologique? Ou bien que Dieu attend? Il a l'éternité pour attendre. Ça ne lui aide pas beaucoup Dieu. Est-ce qu'il attend que l'embryon soit capable de recevoir une âme spirituelle? Et quand vous voyez le développement de l'embryon, on peut actuellement voir le développement de l'embryon d'une façon assez précise médicalement et scientifiquement. On recompose le devenir de l'embryon. À quel moment l'âme informe l'embryon? Vous voyez, c'est tas de questions. Le Saint-Père dit qu'au point de vue philosophique, je ne peux pas savoir. Scientifiquement, évidemment, on ne peut pas le savoir. Absolument pas. Mais quand il y a la division des cellules premières pour former les jumeaux, il y a deux âmes. Hein, il n'y a pas qu'une âme pour les jumeaux. Il y a deux âmes. Et donc l'âme informe les deux séparés. Si l'âme a formé tout de suite la première, qu'est-ce qu'il y aurait? Il y aurait une seconde information de Dieu. le jumeau partirait d'un côté. Tu vois, l'âme du premier jumeau serait d'un côté, puis l'âme du second après. C'est extraordinaire comme au fond, notre point de départ reste caché. L'action de Dieu pour l'âme se fait à l'intérieur du développement de l'embryon. Est-ce au premier moment, est-ce au bout d'un certain temps? Philosophiquement, je ne peux rien dire. Alors, au point de vue de l'Église, au point de vue de la foi, et il a tout à fait raison de le dire, parce que même au point de vue métaphysique, dès la conception, cette conception est pour un homme. Elle vient d'un homme et elle est pour un homme. Même si l'âme n'est pas créée par Dieu tout de suite, l'embryon, dès le point de départ, est l'embryon d'un homme. Alors, le supprimer, c'est supprimer un homme. Est-ce que l'âme était là présente? Oui, ce sont tous des problèmes qui sont très très délicats et qui sont présents à cette question. Hein. Est-ce que la substance, ben, pour moi la substance c'est mon âme. Hein. Est-ce que mon âme, elle est créée plus tard ou dès le point de départ? Mais ce qui est sûr, c'est que mon âme, je peux la penser, je peux savoir connaître ce qu'est l'âme humaine. Et quand je connais l'âme humaine, je la connais par mon intelligence. Et je sais que cette âme humaine, elle existe dans le corps. Elle n'a jamais existé seule, indépendamment du corps. Elle a été créée dans le corps. Ce qui montre bien la coordination ou la coopération du Père et de la Mère et de Dieu. Et ce qui est plus extraordinaire, c'est que ce n'est pas Dieu qui commande un nouvel être. Ce sont les parents. À la conception biologique, qui est première, sûrement. Et c'est très beau de voir que Dieu laisse à sa petite créature la décision, le désir d'avoir un enfant. C'est pas Dieu. Et c'est là où on voit combien Dieu agit en père, coopérant avec l'homme et la femme, avec le père et la mère, qui coopèrent en père. S'ils coopéraient comme créateurs, ils décideraient la création. Ils la décident, mais ils la décident toujours en relation avec la conception biologique. C'est pas lui qui commande. Et ça montre que c'est le Père qui laisse aux parents le soin de décider d'avoir un enfant. Et il demande aux parents le respect de cet être nouveau, il leur confie ça. Le pauvre petit être embryonnaire est confié à la mère, est confié au père. C'est pour vous montrer que tout ça est dans une réalité tangible pour nous. Hein. Mon père, je voudrais revenir sur le rapport essai-essence. Ah, très bien, pour mieux comprendre l'acte. Quand nous sommes face à la réalité existante, Pierre, un homme, et que nous posons sur elle le jugement d'existence, Pierre existe. C'est sûr, nous montrons que cette réalité existe dans son autonomie. Pierre existe, il est une réalité distincte des autres. Et nous atteignons par son acte d'être, qui est au-delà du devenir, par où il est, et il est dans le devenir, qui est au-delà du devenir. Mais je me pose la question de savoir ce qu'ajoute l'essai à l'essence, à la détermination de la réalité. Il ajoute l'essai. Il ajoute l'acte d'être. Alors, marquez très bien cette question. L'acte d'être ne détermine pas. Je l'aurais pris au terme. Je serais venu sur cette question parce que c'est très juste. Bon. L'acte d'être ne détermine pas. L'acte termine. On est bien obligé de mettre un mot. Notre langage est un langage qui est matière et forme. Corps et âme. Ça, c'est très tangible. Et c'est la connaissance du monde physique. Tout le monde physique s'analyse par le point de vue forme et matière. C'est la première distinction. Alors, comme c'est la première distinction, elle est toujours là, présente. Hein. On commence l'analyse de l'être en mouvement. Parce que toutes les réalités que je connais sont des réalités de l'être en mouvement. Dans tout être en mouvement, je distingue matière et forme. Cette distinction, donc, matière et forme, elle est première. Si on ne l'a pas comprise, on comprendra très difficilement le reste. Matière et forme. Vous voyez une réalité qui se détruit, par exemple. Vous voyez que sa matière reste et que ce n'est plus la réalité. Vous voyez ça dans une statue. La matière demeure, mais sa figura disparaît. Parce que n'oublions pas que nous commençons la philosophie avec l'activité artistique. Dans l'activité artistique, on distingue très bien, très nettement, l'idéa et la matière. Donc la matière et la forme. Vous dites, cette statue est de bois. C'est vrai. Et vous avez la même statue, non pas en bois, mais en ciment, en bronze. Donc vous distinguez ça, tout le monde distingue matière et forme. C'est la première distinction. Et vous voyez que la forme informe. Elle détermine. Cette statue a une figure, une figura. Elle a une figure. Cette statue, ou tout simplement l'œuvre artistique, ces pylônes, ils ont une forme, ils sont carrés. Ils pourraient être ronds. Non, ils sont carrés. La matière serait la même, mais ils auraient été ronds. Vous avez ensuite la matière et la forme qui va se distinguer chez le vivant. Vous avez la forme qui non seulement détermine, informe, mais qui est source de mouvement. Le se movere du vivant. Cause efficiente. Et cette cause efficiente, chez le vivant, est ordonnée à une fin. Et cette fin peut très bien être immanente dans la procréation. Le vivant engendre pour qu'il y ait un autre être semblable à lui, mais autre que lui. C'est la victoire contre la corruption. Le monde physique est corruptible, le monde vivant échappe à sa manière à la corruption par sa forme. C'est évident. Quand vous voyez des petits rats, l'espèce rat continue chez les petits rats et la vieille mère peut disparaître. Dès que génération, c'est instinctif, peut disparaître. Et il y a une victoire contre la corruption, puisque l'espèce demeure. Donc l'espèce est victorieuse de la mort. C'est ça qui est très curieux. Elle est victorieuse contre la matière, la corruptibilité de la matière. Puis vous regardez le vivant parfait que vous pouvez expérimenter chez l'homme. Et vous expérimentez dans l'homme qu'il est un vivant plus parfait que tous les autres que vous connaissez. Il est plus parfait que les autres, non pas nécessairement par sa durée de vivant. L'éléphant dure plus longtemps qu'un homme. En face de l'éléphant, je peux dire que j'ai mon ancêtre. Les cèdres du Liban durent plus longtemps que la génération d'un homme. Ils sont des vivants. C'est un petit exemple de l'éternité. Puisque ils sont en hauteur ce qu'ils sont en profondeur. Égalité. C'est très curieux ces choses-là, que les victoires du temps, c'est une victoire du temps, que l'espèce demeure. Mais quand il s'agit de l'homme, il y a l'esprit. Alors, on a une finalité qui peut être au-delà et qui est au-delà de l'espèce. La finalité de la personne. L'être en acte est victorieux de la matière, est victorieux de la matière non pas seulement par l'espèce, mais par la personne. Et vous avez, alors, la découverte d'une causalité finale, l'être en acte. L'être en acte, c'est la victoire de l'être sur le devenir. Alors, qu'ajoute cet être en acte comme fin? C'est une fin extérieure à moi. En tant que vivant, cette fin doit être immanente. En tant qu'esprit, cette fin est transcendante. C'est ça qui est si curieux. En tant que vivant, ma fin, c'est ma contemplation. Mais en tant qu'esprit, la contemplation, c'est la contemplation d'un être, de quelqu'un, d'une personne qui me transcende, qui me dépasse complètement, c'est Dieu. Je ne peux pas contempler mon ami, bien que je l'aime beaucoup. Je ne peux pas le contempler, pourquoi? Parce que mon intelligence ne peut pas être satisfaite de lui. C'est mon intelligence, mon amour, pour m'aveugler et croire que mon ami, c'est ma fin. Non, c'est pas ma fin. C'est mon intelligence qui montre que l'ami est limité. Et je découvre dans l'être en acte une fin. La fin, c'est ce qui m'attire, ce qui me finalise. Alors vous commencez à comprendre que l'être en acte ne détermine pas, mais finalise. Finaliser, c'est-à-dire terminer, achever. Autre chose est d'être déterminé et être achevé. Achever, c'est atteindre ce qu'il y a de plus extrême en moi. Je ne peux pas aller plus loin. L'être en acte achève. Alors, il ne faut plus rester dans la distinction matière et forme. Il faut regarder ça du côté de la finalité. Ce qui me finalise. Ce qui me finalise, c'est ce qui me permet de demeurer dans ma fin. Dans ce qui m'achève. Ce qui, d'une certaine manière, est plus que ce que je suis et qui est en même temps moi. Il y a cette immanence de l'opération vitale, de la contemplation, et en même temps, ce dépassement de la contemplation. Je contemple un autre. Si je me contemplais moi-même, je ne sortirais pas de moi. Et je ramènerai ce qui normalement me finalise et qui est au-delà de moi, à moi-même. Et je ne me finaliserai jamais. Je ne peux pas me finaliser en me contemplant moi-même. En me contemplant moi-même, je demeure dans une immanence parfaite. C'est intéressant. Beaucoup de personnes font de leur contemplation la contemplation d'eux-mêmes. Je viens de recevoir un livre, Les Maîtres du Zen. La contemplation du Zen. C'est rien. C'est soi-même. Le vide. Toute détermination est supprimée. Toute détermination est limitée. Toute détermination limite. Nous supprimons tout ça. Mais comme il n'y a pas la finalité, alors qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien. Extraordinaire. Et des quantités de personnes, de plus en plus, sont prises par ça. Vous voyez, parce que la finalité n'est pas là. Alors, c'est peut-être une manière de comprendre ce qu'est la finalité. C'est en voyant quand il n'y a pas de finalité. Quand il n'y a pas de finalité, vous détruisez toute détermination. Toute détermination limite. Il faut donc les nier. Et qu'est-ce qu'il y a derrière ? Rien. Il y a quelque chose comme ça dans l'anéantisation de Sartre. On supprime toutes les déterminations pour avoir une néantisation. Et c'est l'absolu puisqu'il n'y a pas de fin. Alors, la finalité se donne dans l'immanence de la négation de toute détermination. Mais la négation de toutes les déterminations n'est pas une fin. C'est rien. Et je me donne à moi-même cette fin, la néantisation. le rien. C'est extraordinaire comment une civilisation peut s'achever en se détruisant elle-même. C'est ça au fond, c'est la, l'espèce de culte de l'abîme. Mais en n'ayant aucune détermination. Quand je pose Dieu, je pose un être au-delà de toute détermination. Je pose un être qui est ma fin, ma chèvre. Alors, l'exister achève l'essence, fait que l'essence existe. Ça n'ajoute rien au point de vue détermination. L'essence reste essence, mais elle existe. Elle est en elle-même. Elle est par elle-même. Elle subsiste. Et donc, je ne dis pas qu'elle est sans aucune détermination au-dessus d'elle-même, mais elle existe par elle-même. Je retrouve la détermination dans l'acte. Et je ne la nie pas. L'essence, en s'actuant, est pleinement essence. Et elle ne se détruit pas elle-même. Vous seriez dans la perspective du Zen, la perspective dialectique, c'est une dialectique. Toute détermination est niée. Donc, l'essence en existant serait supprimée. Et il n'y aurait que l'essai. Et l'essai n'existe pas sans essence. L'être en acte n'existe pas sans la substance, sans la détermination de la substance. C'est là la grosse différence avec le Zen. Et ça prend beaucoup, hein. Faut bien voir ça. C'est quelque chose qui séduit beaucoup le monde d'aujourd'hui. Vous voyez, on a comme une civilisation qui a peur de la finalité. Alors elle se retourne sur elle-même. C'est la peur. On n'a pas peur de la détermination. Mais on sent que la détermination est une limite. Alors, on veut la nier. Et la nier jusqu'au bout. Pour me libérer. Alors, je ne me libère pas par la négation, c'est du Sartre. La néantisation vous libère. Sartre dit ça. Pourquoi la néantisation vous libère? Parce qu'il supprime toute détermination. Et que toute détermination est limite. Et donc je supprime tout cela. Et qu'est-ce qu'il y a derrière? Rien. Si vous avez l'être en acte, la finalité, il y a quelque chose, il y a la finalité. Et la finalité, elle suscite en moi l'amour. Et l'amour comme amour n'a aucune jalousie et ne détruit rien. L'amour comme amour assume tout. Mais l'assume sans ajouter une détermination, mais en donnant autre chose. Le vécu de la finalité, c'est l'amour. Alors, c'est par l'amour que vous comprenez ce que représente la finalité. Ça ne détermine pas. Mais, j'allais presque dire, voyez, comprenez, c'est métaphorique hein, ce que je dis, ça ne détermine pas, mais ça rajeunit tout. La L'être en acte est toujours jeune. L'être en acte ne vieillit pas. La finalité, c'est mon rajeunissement constant. Et si je n'ai pas ça, j'ai l'anéantisation. Or, vous voyez, Sartre, en prenant l'anéantisation, saisit quelque chose d'extrêmement moderne, qui est peut-être là, ce qu'il y a de propre à la modernité, c'est que la négation est avant l'affirmation. Nier. Si l'affirmation, si la négation est avant l'affirmation, vous pouvez nier toujours. Et vous avez le zen. Alors, vous croyez libérer le vivant en supprimant toute détermination. Mais en supprimant toute détermination, vous ne libérez pas puisqu'il n'y a pas de finalité. C'est un monde qui se termine en, on dirait, en s'adorant. En dehors de moi, il n'y a rien. En dehors de moi, il n'y a rien d'intéressant. Absolument rien d'intéressant. Donc, la négation de toute détermination d'autrui, par le fait même, autrui, c'est quelque chose qui vient déterminer. Je le supprime. Et je n'ai plus que le néant, le rien, la négation. La négation que je rends subsistante dans le zen. C'est assez extraordinaire de voir ça. Et ça, c'est parce que c'est un monde dont la finalité n'existe plus. Si la finalité n'existe plus, si l'être en acte n'existe plus, vous n'avez plus que la détermination. Et que la détermination, c'est terrible. C'est une limite. Je ne peux pas me contenter des déterminations. Je deviens alors un formalisme impératif. Il n'y a plus que ça. Alors c'est un formalisme qui est absolu. C'est ce formalisme qui tient. Il n'y a plus de finalité. Et si je supprime ce formalisme, ce primat de la détermination, parce que cette détermination est une limite, je tombe dans le primat de la négation du rien. C'est peut-être ce qui nous aide à mieux comprendre comment l'être en acte ne détermine pas, n'ajoute pas une super détermination. Il y avait le père de Finances, qui était un jésuite qui faisait de la philosophie à la grégorienne. Le père de Finances avait inventé le super-être. Et le super-être, c'était l'au-delà de la détermination. Oui. Mais vous comprenez que ça n'a pas de sens, parce que l'être en acte est encore être. Il est pleinement être, il n'est pas super-être. C'est dangereux de dire super-être. Parce que c'est dire que la finalité est quelque chose qui s'ajoute d'une façon artificielle. C'est encore Don Scott quand il dit que la causalité finale est métaphorique, donc est artificielle. Il faut arriver à découvrir que la finalité est intérieure à l'être, elle n'est pas un super-être, elle est intérieure à l'être, elle est au-delà des déterminations, tout en assumant la détermination, en terminant, en permettant l'exercice, en permettant la réalisation. Alors, vous la précisez toujours par des effets, c'est vrai, parce que je n'ai, en dehors de la finalité, je n'ai pas d'autre mot. Et la finalité n'est pleinement elle-même que dans l'esprit, qu'un être spirituel. Un être non spirituel ne comprend pas ce que c'est que la finalité et ne saisit pas ce que c'est que la finalité. Il restera toujours dans la fameuse distinction matière-forme.